Arnache tes mots de créneau, ouais. DJ littéraire pour lecture collective.
Plus vous retrouvez seul face à vos livres, contactez.
Lu et approuvé. La bibliothèque sonore qui compte et raconte des histoires à vivre debout et dormir éveillé. Pas celle que quelques guignols nous racontent à longueur de journée, non. On n'en veut pas et on leur laissera pas le dernier mot.
Chaque semaine sur Canal Sud, nous vous lirons tout haut ce que les gens lisent tout bas. Après la projection, Philippe donne une explication approfondie du caractère expérimental de son film, scène après scène, plan par plan. Dehors, c'est la guerre du Vietnam, les Américains bombardent Hanoï. À Francfort, des étudiants n'ont pas trouvé d'autre réponse à cela que de mettre le feu à un centre commercial. Les spectateurs, qui ne quittent pas la salle, lui demandent quelle est sa réponse, à lui. Mais il n'en a pas.
Dans l'Allemagne d'aujourd'hui, les survivants préfèrent oublier, mais leurs enfants ont du mal à comprendre ces images.
Allemagne 1960.
Das Phänomen ist nun aber, dass Autoritäten unglaublich.
Ceux qui représentent l'autorité ne sont plus crédibles.
Sie verteilen Flugblätter, in denen ihre
Ils distribuent des tracts traitant leurs professeurs d'idiots. Bezeichnet werden.
Uns interessiert speziell der politische.
Intéressons-nous aux films engagés. Nos caméras sont techniquement et chimiquement des outils d'activisme. Nous sommes engagés en faveur de ceux qui cherchent à se libérer de la terreur et de la violence. Nous avons trop joué avec l'idée d'une révolution. Maintenant, il est temps de la faire. Trois bombes explosent à Francfort. Dans un communiqué, la RAF demande la fin de la guerre au Vietnam.
Alle Angeklagten stammen aus sogenannten geordneten Verhältnissen. Wie kommen sie zu ihrer Tat? Vor allem.
Nein, meine Damen, das sind keine griechischen Geister, das sind destruktive Geister.
Il dort d'abord de longues heures, puis il allume le chauffe-bain, change de vêtements et repart pour l'académie. C'est le 9 avril, juste avant Pâques. Il n'a pas vécu la réaction des étudiants comme un échec. Même s'ils ont pour la plupart rejeté le film, le jugeant parfois insoutenable, ils ont tous montré du respect pour son travail. Ce ne sont encore que des questions internes qui agitent l'académie. La nomination ou le limogeage des représentants d'étudiants, l'antagonisme des différents groupes. Les étudiants se préoccupent d'abord de leur travail, de ce que leurs films peuvent provoquer. Ils rédigent des tracts. Les réalisateurs de films à dimension politique contre les esthètes apolitiques et vice-versa. Philippe appartient au groupe des formalistes et des poètes du grand écran. Dans un tract, il exige que l'académie soit transformée en centre de travail expérimental autour du film, tandis que les autres, les politiques, veulent orienter l'œil de la caméra sur les dysfonctionnements de la société. La vision de Philippe est bien définie. Avec son film, il a choisi son camp. Il a créé des personnages dont l'isolement, la solitude et l'attirance pour des forces obscures et menaçantes sont de nature métaphysique et ne peuvent être résolus par aucune révolution.
Deux jours plus tard, le 11 avril, un homme descend d'un train à la gare de Barnsow à Berlin. Il vient dans l'intention d'abattre un célèbre délégué étudiant. Il porte deux armes, l'une sous sa veste, l'autre dans son sac. Dans le sac se trouve aussi la Bild Zeitung, le journal qui depuis longtemps mène une campagne de haine contre le mouvement étudiant. L'homme ouvre le feu, alors que l'étudiant quitte sur son vélo la Johann Georg Strasse pour bifurquer sur le Corfu Amsterdam. Touché, L'étudiant tombe de son vélo, se débat au sol, s'arrache les chaussures des pieds et la montre du poignet. Il appelle en criant sa mère, son père.
Alors que personne encore ne sait qu'il survivra, l'ingénieur du son du voyageur solitaire formule cette opinion cynique, que beaucoup partagent à ce moment-là. Un martyr est toujours utile à la révolution. L'image du vélo couché et de la chaussure abandonnée sur la couffre d'Onstam marque une fracture profonde de cette époque, un tournant dans notre vie, notre pensée, nos sentiments, et entraînera inévitablement un durcissement de nos actions à venir. Dès la nuit du vendredi saint commencent à Berlin et dans d'autres villes des manifestations contre l'éditeur de la Bild Zeitung, désigné comme le véritable auteur de l'attentat. Une pluie de pierres s'abat sur les camions qui sortent de l'imprimerie. Les journaux ne peuvent pas être distribués. Des vitres se brisent, des cocktails Molotov explosent. Des gens sont blessés. Nous n'apprendrons que plus tard les détails des violences qui ont eu lieu cette nuit-là autour de l'immeuble Springer, éditeur de la Bild Zeitung. Philippe et moi, nous n'appartenons à aucun groupe, nous n'avons pas de téléphone, et nos visiteurs doivent nous héler de la rue pour entrer dans l'immeuble parce que, dès 20h, la porte d'entrée est fermée à clé. C'est à l'Académie du film que nous apprenons les nouvelles non officielles. Horrifiés tant par la fusillade que par l'idée formulée par l'ingénieur du son, nous gardons nos distances. Mais le concierge, un policier qui vit dans l'appartement voisin, nous surveille déjà. Il nous classe parmi les lanceurs de pavés. Pour lui, nous sommes de l'autre côté, comme les communistes de Berlin-Est. Et puis, nous n'habitons qu'à deux rues de la communauté de Stuttgarten-Platz, où des individus louches passent leur journée vautrés sur des matelas à fumer du haschich, quand ils ne sont pas occupés à se prendre en photo tout nu ou à jeter des tracts dans la rue. Et tandis qu'il s'applique à rassembler de son balai la poussière de toute la cage d'escalier, devant notre porte, en un petit tas bien pointu, qu'il abandonnera là, le concierge policier s'imagine déjà entendre dans la rue les appels de hordes de chevelus qui demandent à monter chez nous. Parmi les poètes du grand écran qui composent le groupe de formalistes de l'Académie, quelques-uns se retirent, quittent la ville et tournent des films qui seront bientôt visibles dans les grandes salles de cinéma. Philippe referme la grande boîte en fer ronde qui contient son film et la selle à l'aide d'un large ruban adhésif. Le voyageur solitaire ne lui appartient pas. Il est la propriété de l'Académie. La bobine y est donc archivée. Il va aux réunions politiques à l'Académie. Il veut maintenant comprendre ce que son regard purement esthétique sur le monde l'avait encore jusqu'alors empêché de voir. En tournant le dos à sa riche maison familiale, il avait rejeté sa froideur puritaine et son culte de l'argent. La liberté artistique était alors son seul souci, et il croyait ne pouvoir déchiffrer le monde qu'à travers l'intransigeante passion de sa vision créatrice. Deux mois plus tôt, alors que l'éditeur de la Bild Zeitung était publiquement accusé d'appel à la violence et à la haine, Philippe arpentait la Blankefelder Chaussée avec le caméraman et suspendait le temps pour ouvrir aux voyageurs solitaires le chemin vers l'horizon. Plus tard encore, pendant que le dirigeant étudiant expliquait à un congrès contre la guerre au Vietnam qu'il restait peu de temps pour agir et qu'au Vietnam, c'était chacun d'entre nous qu'on fusillait, Philippe s'était déjà abîmé profondément dans l'univers du voyageur solitaire. Mais maintenant, après l'attentat du 11 avril, il se jette avec passion dans les débats politiques où il veut étancher sa soif nouvelle d'information et de confrontation. Les réunions se succèdent. Les photos qui en témoignent couvrent bientôt les murs des couloirs de l'école. Pendant des jours, des semaines, il se rend quotidiennement à l'Académie. En mai 1968, sont promulguées des lois qui menacent les libertés fondamentales. des lois d'état d'urgence qui autorisent à ouvrir des lettres, à écouter des conversations téléphoniques et à suspendre des droits inscrits dans la Constitution. En signe de protestation, tous les étudiants de Berlin se mettent en grève. L'Académie est occupée et rebaptisée du nom du documentariste russe Tsikhavertov. La colère du mouvement interne, qui réclame la liberté absolue du cinéaste, est alimentée et renforcée par la colère générale qui règne dans la ville. Les conflits entre les deux directeurs de l'Académie durent depuis longtemps. L'organisation de l'enseignement est contestée par les étudiants qui demandent plus de droits et de participation au choix des contenus pédagogiques. Mais la direction entend avant tout former la relève pour les institutions télévisuelles, idée que refusent en bloc les deux factions, la politique comme l'esthétique. Le conflit se durcit. Les bureaux des deux directeurs sont saccagés, les dossiers éparpillés à travers les pièces. Les directeurs menacent de faire évacuer l'Académie par les forces de police. L'accès du bâtiment est refusé aux étudiants en grève. C'est le désordre total. Les tournages en cours sont arrêtés, les films terminés sont frappés d'interdiction de présentation publique, que ce soit au Festival de Berlin ou ailleurs. Les contrevenants sont menacés d'exclusion de l'Académie, et c'est une menace lourde pour les étudiants qui ont souvent fait beaucoup de sacrifices pour pouvoir accéder à cette formation. Philippe est le seul à quitter brièvement la réunion pour venir en parler avec moi à la maison. Il ne veut plus décider seul. Il sait ce que quitter l'Académie signifierait pour nous. Mais tous deux, nous savons qu'en cédant à la peur, en rebroussant chemin maintenant, nous choisirions la soumission définitive. Quand il retourne à l'Académie, la police a déjà commencé à évacuer les étudiants. Il se saisit de la boîte contenant le voyageur solitaire. Malgré ses lourdes chaussures, il est plus rapide qu'un policier qui tente de l'arrêter et parvient à s'échapper avec son film par une issue de secours. Vers la fin de l'été, il dépose son appareil photo qui a tant compté pour lui sur mes genoux. Il m'en fait cadeau. il ne l'utilisera plus qu'une seule fois ensuite, quand il commencera à s'intéresser à la fabrication de faux passeports. Je ne pouvais pas alors imaginer que là, sur cette terrasse ensoleillée, en silence et en secret, il avait déjà commencé à s'éloigner, se détachant d'abord des objets, avant d'apprendre à quitter aussi les personnes. Nous commençons à utiliser des mots qui ne sont pas les nôtres. Nous disons classe dominante, lutte des classes et prolétariat, impérialisme et tiers-monde. Nous rencontrons d'autres personnes qui s'intéressent au modèle Summerhill, qui place la liberté au cœur de la réflexion sur l'éducation des enfants. Tous, nous décidons de retirer nos enfants des écoles maternelles publiques, parce que nous voulons autre chose pour eux que l'éducation à la propreté et à l'obéissance. Nous louons une petite boutique, fermée comme beaucoup d'autres à l'apparition des grandes surfaces, et y installons des matelas, de longues tables, une cabane en bois et un bac à sable. Nous l'appelons Kinderladen. Une personne rémunérée vient tous les jours s'occuper des enfants, tandis que nous, les parents, faisons à tour de rôle le ménage et la cuisine du midi. Le premier Kinderladen est né rapidement et en naîtra un second, puis un troisième, un quatrième. Et nous appelons cela un mouvement. C'est ainsi que le terme Kinderladen, qui signifie littéralement « boutique des enfants », est entré dans l'histoire. Terme un peu pauvre qui restera pourtant celui d'un grand tournant dans la réflexion sur l'éducation des enfants. Philippe est toujours inscrit à l'Académie du film. Il emprunte deux caméras pour faire un documentaire de ce moment de notre vie. Il veut filmer les enfants quand ils se rencontrent, veut montrer comment les garçons et les filles se comportent dans la nouvelle communauté, comment ils entrent dans ce nouveau monde, nouent des amitiés ou restent à l'écart, résistent ou se replient, comment ils s'agrippent à leurs parents ou les laissent partir. Chaque jour, il dirige l'œil de sa caméra sur un nouvel enfant, qui devient alors le centre d'un réseau de lignes invisibles qui tantôt mène la caméra à l'enfant et tantôt l'en éloigne, dessinant pour chaque petit individu un champ d'action particulier. La deuxième caméra est confiée à un père ou à une mère. Philippe veut aussi fixer le regard des parents sur leurs enfants. Alors, une fois par semaine, nous visionnons ensemble les images pour y lire notre manière de voir nos enfants. Les films tournés par les parents révèlent l'attachement indéfectible, le raffissement et l'amour et la culpabilité que chaque parent porte en lui, soumis à ses propres désirs, ses rêves et ses espoirs. Quand leurs enfants entrent dans le champ de la caméra, les parents le suivent, mais ils arrêtent de filmer s'ils commencent à se battre avec un autre ou s'il ne veut pas partager, s'il fait quelque chose qu'ils ne veulent pas voir et encore moins montrer, ou s'il est en détresse. Philippe fait quant à lui un travail de pure documentation. L'amour qu'il porte à mon fils ne l'empêche pas de rester un observateur distant. L'homme qui tient la caméra subordonne ses sentiments à l'objectif qu'il poursuit. Et c'est aussi l'attitude qu'il aura quelques années plus tard, quand il choisira de disparaître. Il continue de filmer ce que les autres parents auraient empêché. Il filme même quand mon fils est attrapé par deux garçons plus âgés que lui, qui le tire par le bras jusqu'à ce qu'il pleure. Là encore, il est celui qui observe et qui montre ce qui arrive entre les enfants, sans faire de commentaires et sans chercher à embellir la réalité. Mais ce petit passage du film me blesse, parce que Philippe supporte d'assister à cette scène sans intervenir. En analysant les films, une fois par semaine, nous arrivons à mieux définir ce que nous ne voulons pas. Nous faisons chaque fois de nouvelles découvertes qui nous donnent des indices et des idées pour préparer à nos enfants le chemin qui mène à une vie libre et autodéterminée. Mais chaque découverte nous révèle aussi combien nous sommes loin du but. Nous avons depuis longtemps dépassé le modèle de Summerhill. Nous ne pouvons plus nous contenter de créer une île de liberté dans un monde de contraintes. Ce que nous voulons est inscrit dans les livres que nous lisons alors. Ces ouvrages, qui sont pour nous de véritables manuels pratiques. Notre réflexion se construit avec la confrontation entre les écrits d'Herbert Marcuse, de Wilhelm Reich, d'Eric Fromm, Nelly Wolfram, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Karl Marx ou encore Freud. Autour de ces textes se déclenchent de virulentes batailles qui voient des groupes se faire et se défaire, se lancer à la figure leurs contradictions respectives et s'accuser mutuellement d'être incapables de s'affranchir de la consciente petite bourgeoise ou de certains réflexes réactionnaires. L'éducation et la politique sont maintenant intimement liées. La politique devient pour nous une question personnelle. Tout ce qui arrive dans le monde est lié à notre propre existence. Qu'il s'agisse de la guerre du Vietnam, des anciens nazis au gouvernement ou de l'augmentation du prix du ticket de métro. Tout est lié. Et chaque nouvelle problématique mène à un questionnement général sur la société dans laquelle nous vivons. Nous voulons tirer de chaque événement un concept nouveau. Et chaque concept représente un pas vers ce changement profond de la société qu'on appelle révolution. Nous achetons une petite imprimante et remettons en circulation des textes depuis longtemps oubliés sur l'éducation et la psychologie des enfants. Nous apprenons qu'un étudiant en doctorat est en possession d'un texte inédit de Walter Benjamin. Programme d'un théâtre prolétarien pour enfants. Un commando d'intervention préparé et équipé au Kinderladen pénètre dans le bureau de l'étudiant, s'empare des feuillets, en fait des copies, puis remet soigneusement en place l'original. Nous expliquons aux personnes présentes qui nous voient surgir brusquement dans le local que ce texte est essentiel à notre travail avec les enfants et que nous en avons besoin tout de suite, pas un jour. Nous fabriquons une brochure contenant le texte de Walter Benjamin, des commentaires et réflexions du groupe, ainsi que quelques pages blanches réservées aux notes du lecteur, et la publions avant que l'éditeur qui détient les droits ne le fasse. Sur de longues tables, nous alignons les piles de feuillets de la brochure et les assemblons à la graffeuse. Bon, parfois elles ne sont pas dans le bon ordre. Nous distribuons ensuite les cahiers dans les librairies, où ils sont vendus sous le comptoir, en tant qu'édition pirate. L'argent récolté nous sert à payer le loyer et le salaire de la personne qui travaille tous les jours au Kinderladen. S'il n'y a pas assez, nous allons à plusieurs travailler de nuit pour une société chargée du nettoyage de bureaux privés. Essuyer des tables sur lesquelles il n'y a pas un grain de poussière, aligner des pots à crayons et des bloc-notes contre des appareils téléphoniques, vider des poubelles qui ne contiennent que quelques feuillets dans de grands sacs, passer l'éponge sur les chaises et les bords de fenêtres, traîner l'aspirateur à travers d'immenses salles éclairées au néon où règne le silence de la nuit. À la rentrée, les conflits internes, loin d'être dépassés, embrasent de nouveau l'Académie du film. Un homme, un avocat, est arrêté, accusé d'avoir fomenté l'attaque des locaux du groupe de presse Springer, après l'attentat contre le leader étudiant. Une manifestation s'organise, dont les consignes sont exposées dans le film pirate produit secrètement à l'Académie. Je ne sais plus si Philippe participe à la réalisation de ce document, mais il s'achète au marché aux puces une veste militaire avec beaucoup de poches où mettre des pierres. Au matin du 4 novembre, nous nous regroupons devant le tribunal du Tegelerweg, où s'ouvre le procès contre l'avocat. La manifestation tourne à l'affrontement avec la police, le plus violent que le mouvement étudiant ait connu jusqu'alors. Un camion chargé de pavés est providentiellement garé dans la rue. Plus tard, nous apprenons qu'un agent provocateur a amené à dessein le véhicule à cet endroit. Pour la première fois, il y a plus de blessés parmi les policiers que du côté des manifestants. Pour la première fois, les manifestants s'organisent en rang serré pour charger les policiers. Pour la première fois, ils reçoivent des gaz lacrymogènes. La confrontation se transforme en véritable bataille, après laquelle personne ne peut dire avec certitude si une des 3371 pierres qui ont plus tard comptabilisé sur la chaussée a touché quelqu'un. Pour la dernière fois, les policiers portent les shakos démodés qui ressemblent à des casques à pointe. Pour les prochaines interventions, ils seront équipés de casques à visière avant de disparaître complètement derrière leurs boucliers. Après cette journée, les étudiants s'interrogent sur la frontière entre la violence contre les choses et la violence contre les personnes. Philippe lui-même admet que dans le tumulte, il ne pouvait plus savoir s'il lançait ses pierres sur des choses ou sur des personnes. Trois semaines plus tard, il est renvoyé de l'académie, avec 17 autres étudiants. Des rancunes vieilles de 6 mois sont à l'origine de cette décision. Un tract insultant la direction, l'exclusion de l'étudiant qui en était l'auteur, le rassemblement devant le bureau du directeur d'un groupe qui exigeait l'annulation immédiate de la décision de renvoi. Le directeur avait noté les noms des protestataires, et quand il avait voulu la lire à voix haute, la liste lui avait été arrachée. Mais 6 mois plus tard, il se souvient parfaitement des noms qui y figuraient. Il dépose une plainte contre les étudiants, les accusant d'effraction pour s'être introduit dans le bureau par la force, d'attentat à la liberté individuelle pour avoir voulu le forcer à la discussion, et de violence contre sa personne pour lui avoir arraché la liste des mains. Les avis d'exclusion de l'école arrivent le lendemain. Pour 18 des 54 étudiants, la formation est terminée. Même s'ils s'y attendaient, cela reste un choc. Tous les journaux en parlent, mais les étudiants tiennent à expliquer à eux-mêmes ce qui est arrivé et organisent une assemblée à la Freie Universität. L'affiche montre une caméra sur laquelle sont pointés les canons de plusieurs fusils. La chaîne locale, Freies Berlin, vient filmer l'assemblée, mais un groupe auquel se mêle Philippe bouscule le caméraman et collectivise la caméra. Les étudiants se rendent ensuite à l'école de cinéma de Munich pour y exposer les circonstances d'exclusion. Cette fois encore, ils emmènent leur film. Au terme de la projection du Voyageur solitaire, les étudiants munichois demandent à leur tour à Philippe comment il a pu produire un film de ce type tout en étant engagé politiquement. Il affirme cette fois que la forme du film est une dénonciation de la pensée bourgeoise. Pendant l'hiver 69, Philippe devient chauffeur de taxi. Des semaines durant, il prépare l'examen. Je l'interroge sur des trajets qu'il doit connaître par cœur. Le chemin le plus court entre Wittenau et Britz, ou entre Wannsee et Kreuzberg. Toutes les rues principales et toutes celles qui s'arrêtent brutalement parce qu'elles sont coupées par le mur. Il retient tout cela facilement. Il choisit de travailler la nuit. La nuit le fascine. Il y découvre un monde nouveau. Sur le siège, à côté de lui, un thermos de café et un sandwich. Il évite les files d'attente aux stations de taxi, préférant rouler au hasard et prendre ses clients au bord d'un trottoir plutôt que de les attendre à la gare ou à l'aéroport. Il conduit un aveugle au bordel de la place de Stuttgart et lui choisit une femme. Il emmène une jeune femme, en larmes, d'un bar à l'autre pour retrouver son fiancé. Il secoue un homme endormi dans la neige et le ramène à son immeuble, du quartier de Hansa. Il expulse de sa voiture un ivrogne qui le traite de hippie-glandeur. Après 8 ou 9 heures de travail, il ramène la voiture à la centrale et rentre à la maison. Il part quand il veut, il peut choisir ses horaires. Ce qu'il gagne nous suffit pour vivre. Quand il ne conduit pas son taxi, il est occupé à prendre contact avec des groupes dans les quartiers ouvriers et les usines, s'approchant peu à peu du monde qui un jour l'engloutira complètement. Son accent suisse disparaît pour faire place à un léger accent berlinois. C'est l'époque où nous répétons sans cesse qu'il est temps d'agir, que ce n'est plus possible, que nous ne pouvons plus rester à regarder sans rien faire. Tout le monde en parle, partout où nous allons, au Kinderladen comme dans les assemblées. Nous le disons à propos de la guerre au Vietnam. Nous le disons quand un dirigeant des Black Panthers est abattu aux États-Unis. Nous le disons quand nous apprenons encore une fois qu'un ancien juge nazi est toujours employé au tribunal. Nous le disons quand la police grecque ouvre le feu sur des ouvriers qui manifestent, quand les rythmes de production augmentent dans les usines et que l'État refuse de subventionner les Kinderladen. Nous le répétons à l'infini. Et quand se pose la question « parler ou agir ?», nous passons aussi à l'action. Des vitres de l'ambassade grecque volent en éclats. La voiture d'un juge responsable d'une condamnation injuste part en fumée. Philippe écrit en grandes lettres rouges « Pouvoir ouvrier » sur une voiture américaine garée dans la rue. Sur le mur d'un bâtiment sénatorial, il trace des injures contre le préfet de police. Tandis que je l'attends au volant de notre voiture, moteur allumé, et nous échappons de justesse à un policier qui pointe son arme sur nous, mais ne tire pas, parce que ses grosses bottes dérapent sur la glace du trottoir. je réussis à ignorer le danger en me concentrant sur mon envie de rentrer à la maison pour retrouver mon enfant. Quand j'y repense plus tard, cela ressemble à une scène de film. Jamais encore je n'avais vu une arme pointée sur moi. Et je n'y arrivais pas à y croire que j'avais réellement vécu cette scène. Je ne sais pas d'où me vient alors la certitude que je rentrerai toujours indemne de ces virées nocturnes. Je ressens un bonheur violent au moment de pousser la porte de la chambre de mon enfant endormi pour venir m'asseoir au bord de son lit. Peut-être que j'accepte le risque parce qu'il est pour moi une façon de vaincre ma peur et de goûter la joie du retour à la maison. Philippe ne pense pas au retour, mais seulement à aller encore plus loin. De même qu'il était jusqu'alors animé par ses seules aspirations artistiques, il est maintenant entièrement concentré sur sa crédibilité politique, qu'il veut façonner jusqu'à la perfection, en y travaillant, chaque nuit, avec acharnement.
Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. 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 Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk.
Dans l'immeuble de la dernière arrière-cour, nous avons loué les deux premiers étages d'une ancienne manufacture, reliée par un escalier privé. Au-dessus de nous vit une artiste peintre avec ses filles jumelles âgées de quelques mois et son mari, qui lui aussi a été renvoyé de l'académie. En dessous se trouve l'atelier d'un serrurier dont le rire rappelle celui d'Anthony Quinn. Nous partageons nos étages avec un autre chauffeur de taxi et sa compagne. La lumière des premiers jours de janvier pénètre par les longues rangées de fenêtres et tombe sur mon lit. Cette nuit, la nausée et de lancinantes maux de tête m'ont tenu éveillée. Tout est ralenti. Je suis fatiguée et j'observe le mouvement autour de moi. 6 adultes et 2 enfants. Nous partageons l'argent, les travaux ménagers et les responsabilités. À tour de rôle, nous nous occupons des enfants. Se lever tôt pour préparer le petit déjeuner, les emmener au Kinderladen, faire les courses et préparer à manger. Les coucher, leur lire une histoire et rester à la maison le soir. Nous dînons tous ensemble. Toutes nos dépenses sont notées dans un cahier. Nos bourses d'études et nos salaires de chauffeur de taxi, de professeur de langue et de traductrice sont reversés en totalité dans une caisse commune, où chacun prélève la même somme d'argent. Notre vie n'est pas coûteuse et aucun souci financier n'y pèse. Nous ne manquons de rien et pourrions même satisfaire à nos caprices. Tandis que mon enfant passe en courant devant le lit où j'attends de guérir de mon hépatite, je mesure à quel point je suis bien entourée. Ce sont des instants de totale sécurité. L'appartement au-dessus de la voie ferrée est déjà un souvenir si lointain que je ne peux plus imaginer vivre en petite famille. De mon lit, j'aperçois les rares objets auxquels je tiens et que j'ai apportés de là-bas. Le canapé doré, une vieille lampe de porcelaine dont l'abat-jour est soutenu par 3 danseuses, un fauteuil art nouveau, mes livres, mes vêtements, ma machine à coudre et un grand miroir. Philippe n'a de sa vie jamais possédé aucun meuble, ni même une assiette ou une tasse. Il a posé sa machine à écrire sur le plateau nu d'une table et pendu sur des cendres son manteau noir, son costume, ses chemises, la veste de pilote, la pantalon kaki et la veste militaire achetée au Tegelerweg pour les manifestations. Il a dessiné des plans, il a scié, vissé, assemblé et peint, comme s'il voulait bâtir une existence. Pourtant, il ne s'installe pas. Il se couche à mes côtés, dans le grand lit qu'il a construit. Il se serre contre moi, comme si nous étions une seule et même personne. Il se retourne quand je me retourne. Si je me lève la nuit, il laisse le creux de son bras ouvert jusqu'à ce que je m'y recouche. Il habite la place à mes côtés, et nulle part ailleurs dans les deux vastes étages de l'appartement. Plus d'un an après l'exclusion du tribunal a ordonné le retour des 18 étudiants de l'académie. Mais les directeurs refusent de les réinscrire. En dédommagement, ils leur offrent la somme que chacun aurait perçue pour la réalisation du film de fin d'études. Certains dépensent cet argent pour vivre, d'autres partent en voyage pour un an, en Inde ou ailleurs. Philippe dépense ce qu'il reçoit en matériel vidéo. À la foire de Hanovre apparaissent alors les premiers appareils semi-professionnels d'enregistrement magnétique. Nous nous arrêtons, fascinés devant une petite caméra qui renvoie notre image sur un écran. La pellicule, qui est réutilisable à l'envi, ressemble à un large ruban de magnétophone. Cette nouvelle technique électronique permet d'éviter le long travail de copie et de réaliser des films qui passent directement sur un moniteur. Dans notre minibus Ford Transit, nous roulons jusqu'à une petite ville de l'Ouest, traversons des quartiers de résidences modernes aux larges baies vitrées, derrière lesquels d'immenses téléviseurs couleur renvoient des séries de début de soirée vers des salons tendus de velours brun. Nous nous retrouvons devant une cave servant d'atelier à un ingénieur qui représente la firme japonaise dont notre nouveau matériel porte la marque. Nous avons noté tout ce que nous voudrions obtenir. Pour copier des programmes télévisés, il nous faut un câble reliant l'appareil vidéo au téléviseur. Nous voulons pouvoir ajouter nos propres commentaires aux images. Et Philippe a acheté un magnétophone Revox, qu'il faut connecter au reste du matériel. Avec une connexion entre l'appareil vidéo et un projecteur, nous aimerions pouvoir copier des images sur la pellicule. Mais les récents progrès techniques n'ont pas résolu le problème de décalage de vitesse de lecture entre les deux systèmes. Philippe et l'ingénieur appliquent leurs mains sur le moteur du projecteur afin de ralentir sa rotation et de le caler sur la vitesse de l'appareil vidéo. Mais l'image du moniteur est traversée d'un trait blanc. Ça ne fonctionne pas. Nous passons la nuit entre les câbles, les prises et le fer à souder. Le lendemain, notre minibus est chargé d'appareils. Nous les transportons à l'étage supérieur de notre appartement. Philippe les relie un à un et installe le studio. Les premiers films de Tsika Vertov lui donnent l'idée de monter un studio de contre-information. Dans les premières années, après la Révolution russe, Tsika Vertov avait développé une technique de montage qui lui permettait de réaliser une sorte d'émission d'actualité hebdomadaire, avec laquelle il espérait provoquer le soulèvement de la population rurale. Lors du raccordement d'une bourgade au réseau électrique, il avait filmé le moment où la lumière s'allumait dans toutes les maisons, puis il avait voyagé de village en village pour présenter ce progrès. Un monde nouveau et inconnu s'ouvre devant Philippe. Il est bien plus vaste que les escapades nocturnes que lui offraient ses courses en taxi. Nous habitons maintenant un quartier où vivent de nombreux étrangers. Leurs appartements sont humides, les fenêtres délabrées ferment mal et les systèmes de chauffage sont insuffisants face aux rigueurs de l'hiver berlinois. Nos voisins ne comprennent pas les contrats de location qu'ils ont signés. Ils ignorent leurs droits. Avec un avocat spécialisé, nous organisons une réunion pour déterminer si l'état des logements peut permettre de demander une baisse des loyers. Nous filmons la réunion, avec la nouvelle caméra, et montrons ces images dans une maison de quartier. Philippe travaille aussi à un contre-journal télévisé qui reprend les informations du journal du soir de Berlin pour les analyser sous un angle nouveau. Il imagine un écran posé dans la vitrine d'un magasin et diffusant régulièrement des programmes avec des grappes de passants s'arrêtant pour regarder à travers la vitre. il est le premier à Berlin à travailler avec ce type de matériel semi-professionnel. La nouvelle se répand vite parmi les étudiants de l'académie, qui viennent voir la caméra électronique portable de Philippe. Philippe retourne à l'école en tant qu'enseignant. Il fonde l'Institut de vidéographie avec son propre papier en tête. Les étudiants empruntent les appareils pour leurs travaux et nous vivons des frais de location que nous paie l'académie. L'étage supérieur de notre logement est maintenant continuellement plein de monde. Sur de longues tables s'étalent les épreuves d'un journal dont les éditeurs changent souvent parce que ses articles virulents contre les États-Unis et la guerre au Vietnam lui valent d'être régulièrement interdits. Chaque numéro du journal est discuté, écrit, mis en page, collé, puis glissé dans des enveloppes portant les adresses des abonnés. Après des semaines de fatigue, je suis enfin guérie. Le printemps a commencé.
Lu et approuvé. Bibliothèque sonore.
Bonsoir. Oula, j'essaie de faire la mise au point sur mes yeux.
Bonsoir à toutes et à tous.
Donc c'était lu et approuvé, lecture un peu compliquée ce soir. Ouh.
Non, ça va.
Non mais j'ai la pâteuse, j'ai les yeux qui collent, je voyais plus le texte à des moments, donc mais tout va bien.
Il y a quelques mots qui sont apparus, mais...
Voilà, du coup c'était un... Non, c'est un super bouquin qu'on a découvert qui s'appelle La disparition de Philippe S. de Ulrich Edmund. Désolé pour la prononciation surtout de tous les noms en allemand, c'est terrible.
Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair. Bon. Et du coup, il s'appelle comment l'auteur ?
Elle s'appelle Ulrich Edmund. C'est gentil de ne pas me faire répéter.
Okay, voilà. Bah, vous trouverez les références sur notre blog. Mais vas-y, tu voulais peut-être dire d'autres trucs sur le bouquin ?
Non, juste dire qu'il y a eu quelques extraits qu'on mettra sur le blog en lien, des extraits de films qu'on a entendus au début. Un film qui s'appelle Une jeunesse allemande et l'autre, ouais. C'est La bande à Baader.
C'est ça. Et du coup, peut-être que ça veut que ce bouquin il fera l'objet d'une deuxième lecture.
Qui ouais. Sait
on ne sait pas encore. Sinon, ouais. Vous pouvez nous retrouver sur le blog luapprouvé.noblogs.com, je crois que c'est. Du coup, là, vous retrouverez bah, les références, etc. Sinon, sur le site aussi de Canal Sud, canalsud.net. Voilà, vous pouvez réécouter toutes les émissions. Depuis le début, on doit être au moins à la millième. Facile. Bah, du coup, plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, c'est ça ?
Allez.
Et puis, bah, la semaine prochaine.
À la prochaine, quoi.
C'est ça. Ciao, ciao. Bonne Salut. Soirée, bonne nuit.
Qu'est-ce qu'un livre si nous ne l'ouvrons pas ? Un simple cube de papier et de cuir avec des feuilles. Mais si nous le lisons, il se passe quelque chose d'étrange. Je crois qu'il change à chaque fois.
A better world, a better world, a better world, a better world.